Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous espérons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Nicheze Kibel-Ben-Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de l'ouvrage intitulé « Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024 ». Bonjour Nicheze Kibel-Ben-Oka.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
En ligne, Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, présidente de la société civile du Sud Kivu, et les chefs d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Bonjour Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza.
Bonjour Dimanche et bonjour à tous les débatteurs.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Bonjour Christophe Châtelot.
Oui, bonjour Guy, bonjour à tous les visiteurs et aux participants à ce débat.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue de l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Nicheze Kibel-Ben-Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Et il est auteur de l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, il est président de la société civile du Sud Kivu et le chef d'équipe du groupe thématique, du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Il est également ordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir, est-ce que la chute d'Ouvira enterre les accords de Washington? L'accord de Washington, échec pour Kigali et M23, et enfin, situation humanitaire au Sud Kivu causée par les affrontements entre les FRDC et les M23. Mais nous allons commencer par remettre un commentaire au sujet de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. En effet, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. C'est le jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Le ministre des droits humains de la RDC encourage chaque Congolais à s'engager dans le renforcement de la protection des droits humains et dans les combats pour la reconnaissance des génocides. Samuel Mbemba a formulé cette requête à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le mercredi 10 décembre de chaque année. À Kinshasa, une manifestation a été organisée au Palais du Peuple en présence de plusieurs catégories socio-professionnelles. Nicheze Kibel-Ben-Oka, quel sens peut-on accorder à cette Journée des droits de l'homme lorsqu'on se place dans les contextes congolais?
Oui, merci. Vous permettrez d'abord que je commence, parce que c'est le sujet, par avoir une pensée pieuse pour notre ancien confrère Magloire Paloukou, qui a été malheureusement assassiné le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Et cela montre qu'effectivement, nous avons du chemin à parcourir en République démocratique du Congo, où on connaît beaucoup de violations des droits de l'homme. Il faut, en principe, que tout Congolais, que chaque Congolais ou chaque habitant de la République démocratique du Congo puisse en faire son affaire à lui, pour éviter au maximum des tueries chaque jour. Et malheureusement, nous en connaissons assez. Donc, cette journée, elle est mémorable, elle est interpellatrice du fait que le Congo est en train de traverser des violations systématiques des droits de l'homme.
On a tout de suite pour présenter nos condoléances, n'est-ce pas, à la famille des Magloire Paloukou, un confrère qu'on connaissait très très bien. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, vous êtes activiste des droits de l'homme. S'il faut évaluer la situation des droits de l'homme en RDC, que diriez-vous?
Bon, je commence également par présenter mes condoléances à la famille des Magloire Paloukou et à tous les défenseurs de droits humains, journalistes, animateurs de la société civile qui passent des moments très difficiles en ce moment. Nous avons perdu aussi un autre collègue de Lubungi pendant les affrontements. Il y a l'autre de Baraka qui venait d'être libéré aussi, il était arrêté hier. Donc, la situation des droits humains est chaotique, autant que la situation humanitaire. Donc, il y a vraiment des réels soucis par rapport à la protection des civils dans les zones occupées par la rébellion de l'AFCM-23 soutenue par le Rwanda, mais aussi celles qui sont sous contrôle du gouvernement. Donc, nous ne cessons de documenter ces cas-là, nous, comme bureau de coordination de la société civile Sud-Kivu, pour tous les 8 territoires et les 4 villes que compte la province du Sud-Kivu. Donc, vraiment, le tableau est très, très sombre, et là, on n'épargne personne. Et ces situations, ces tâches sont plus accentuées, bien sûr, dans les zones occupées que dans les zones sous contrôle du gouvernement. Mais de part et d'autre, il y a vraiment de graves violations des droits humains qui se commettent. Et nous pensons qu'il est temps d'y mettre fin à travers vraiment le processus de dialogue inclusif que nous avons toujours annoncé. Okay. À travers le respect de la souveraineté de la RDC et le renforcement des institutions, parce que c'est à cause de la faiblesse des institutions qu'on est en train de traverser ces moments-là très, très difficiles.
Merci. Merci, Christophe Châtelot. Comment sont perçus les droits humains en France et d'où vous intervenez?
Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Maître Néné Bintou. Les journées commémoratives ou les journées spéciales, on sait très bien que voilà, ça commence le matin, ça termine le soir. Parfois, ça permet de mettre un coup de projecteur sur une situation particulière, mais malheureusement, ça n'influe pas vraiment sur le cours des événements. Donc, moi, je constate par mon petit prisme, celui d'un journaliste étranger qui n'est évidemment pas soumis aux mêmes pressions contraintes que mes confrères, consoeurs congolais, c'est qu'il est très difficile pour les journalistes de travailler, donc de rapporter les exactions et les violations des droits humains qu'il y a dans dans la région, enfin dans l'Est du Congo, mais pas seulement au Congo en général. On est soumis à un système d'accréditation qui peut prendre des mois avant de pouvoir obtenir un visa. Voilà, encore une fois, je ne fais pas de parallèle entre la situation beaucoup plus compliquée et difficile pour les gens qui travaillent, mes consoeurs, confrères, encore une fois, congolais, mais on ne peut que constater à tous les niveaux qu'il y a en effet des progrès à accomplir. Pour ce qui se passe dans l'Est du pays, en effet, tout ce que l'on me rappelle, tout ce que l'on me rapporte, c'est malheureusement ce que l'on retrouve sur la plupart des terrains de guerre, c'est-à-dire le respect, le minimum pour l'absence de respect total des droits humains dans ces circonstances-là. Et comme le disait, le soulignait très justement Maître Néné Bintou, ça vaut pour les deux côtés.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Bope Sahel Itea de Jano Bumbenga Wewando et on se retrouve juste après.
Tunina baboti baye, babesa yelite ya. So akina inakosilika ubako na matangai na motu mabeo. Kalimbi, babesa yelite ya. Kinga ina siliki lelo, ezali zena.
Bopesa Elisea de Jano Bombenga Wewando, c'est Baoba de la musique congolaise moderne, Jano Bombenga Wewando, a totalisé 91 ans en août dernier. Il est toujours debout et continue de se produire en dépit de son âge. On revient à l'actualité cette semaine. La ville d'Uvira est tombée entre les mains de la rébellion. Les éléments de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda ont fait leur entrée dans cette ville mercredi matin sans combat. Selon des sources locales, des colonnes de ces rebelles étaient visibles dans les principales artères de la cité, tandis que d'autres se dirigeaient vers la frontière congolaise des Kanvivira avec le Burundi. Le gouvernement congolais a alerté sur la régionalisation du conflit par le Rwanda et dénonce la violation de l'accord de Washington. Cette entrée des troupes du M23 à Uvira est intervenue seulement 6 jours après l'entérinement par les présidents congolais et rwandais de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Christophe Châtelot, vous êtes journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité en la formulant ainsi. Est-ce que la chute d'Uvira enterre les accords de Washington? On vous écoute.
Oui, la question tout de même d'être posée n'est qu'à lire l'intitulé de cet accord qui est un accord de paix global. Et on constate une semaine après que la ville d'Uvira est attaquée massivement par une coalition de troupes à la fois locales et rwandaises contre une coalition de milices locales, d'une armée congolaise et de forces burundaises. On ne peut pas dire à côté ou très proche d'un accord de paix global. Alors pourquoi on en arrive là? Je me pose la question, j'ai évidemment pas la réponse, mais je me demande si c'est pas un petit peu un jeu de dupes auquel on a assisté à Washington il y a une semaine. Sur les images, on pouvait constater d'abord qu'il y avait une personne qui s'en réjouissait, c'était Donald Trump, qui parle d'une façon un petit peu ambiguë d'ailleurs de grands miracles. Miracle, on sait quel sens il faut donner à ce mot-là. C'est-à-dire qu'on est un peu loin de la réalité. Et dans ce jeu de dupes, je me demande si les principaux perdants ne sont pas les Congolais. Est-ce que le régime de Kinshasa a cru à un moment que les États-Unis allaient se battre? Quand on lit cet accord de paix globale, quand on lit également cet accord de coopération économique régionale, quand on lit l'accord de Doha entre le gouvernement et le M23-FC, ce qui est même frappant, c'est qu'il n'y a aucune disposition contraignante en cas de non-respect des engagements, le premier des engagements étant l'instauration d'un cessez-le-feu, dont on a parlé nombreuses fois depuis la résurgence du M23 en novembre 2021. À chaque fois, il y a eu violation de ce cessez-le-feu. Chaque partie se rejetait la responsabilité de ces violations, d'ailleurs. C'est un jeu, pareil, classique dans la plupart des conflits. Donc, aucune disposition contraignante en cas de non-respect des engagements. Donc, aujourd'hui, il y a clairement une violation d'un cessez-le-feu qui est décrété sans être assumé par les partis. Qui va traiter cette histoire? Est-ce que qui du côté américain va saisir du dossier pour essayer de faire pression sur le Rwanda, bien évidemment? pour qu'il fasse une même pression sur le M23 et l'AFC pour arrêter les combats, mais au-delà de ça, se retirer des zones conquises. Or, ce qu'on assiste depuis novembre 2021, en fait, c'est que chaque parcelle de terrain conquise par M23/Rwanda est l'objet d'une forme de la création d'une administration parallèle, d'un proto-État qui s'instaure progressivement. Autrement dit, des mesures qui sont prises non pas pour préparer un retrait demain, mais au contraire, qui préfigure un enracinement, un séjour dans la durée, bon gré mal gré. Alors, dans ce jeu dupe et dans ce deal, on pouvait penser qu'en effet, les États-Unis pourraient faire pression en échange d'un certain nombre d'avantages, un accès privilégié à des ressources naturelles, comme Trump, d'une façon totalement décomplexée, l'exprime à chaque fois, que ce soit sur la RDC, sur Gaza, sur l'Ukraine. Il y a une chose là aussi qui m'étonne beaucoup, et ce que le Kinshasa et la présidence n'a pas surévalué la détermination des États-Unis, c'est que quand on lit certains documents, un très récent du département d'État sur le climat des affaires en RDC en 2025, ce que l'on y trouve, c'est autant d'arguments décourageants n'importe quel investisseur intéressé par les ressources minérales réelles, énormes, du pays. On parle d'obstacles persistants liés à la gouvernance, la sécurité, les infrastructures, un système de prédation fiscale, une corruption omniprésente. Sur l'insécurité des investissements, il cite d'une façon non ironique, mais la remise en question du contrat du siècle avec les Chinois, donc avec d'autres investisseurs. Les Chinois sont des investisseurs comme les autres. Voilà, on souligne l'absence d'infrastructures routières, énergétiques, financières, d'un système bancaire. Honnêtement, je me demande si tout au long de, depuis le premier voyage de Massad Boulos au début de cette année jusqu'à maintenant, ils n'ont pas, côté américain, pris conscience de la difficulté qu'il y a à investir dans le pays. Alors il y a peut-être surnageant la question du couloir de l'Obito. On est loin de l'est du pays. Je me demande voilà, si les États-Unis sont réellement intéressés à ce que cette paix globale soit instaurée dans le pays.
Christophe Châtelot, justement, comment vous comprenez le silence du président Trump face à la chute de la ville d'Uvira?
Pour l'instant, je pense que c'est comme pour les autres conflits qu'il a prétendu régler du jour au lendemain. Il s'aperçoit que la situation est beaucoup plus complexe qu'il ne l'imaginait au départ et qu'il n'y a pas de réponse. Vous savez, Trump, j'allais dire, je ne suis pas fier d'amalgame, mais que ce soit Trump, Poutine, Xi Jinping, autrement dit les grandes puissances qui dictent leur volonté dans la partie du monde qui les intéresse, les questions de souveraineté et les principes humanitaires ne sont pas leurs préoccupations principales. Ce qui se passe à Uvira, je pense que c'est vu comme un détail. Et que ce qui intéresse Trump, c'est probablement les ressources minières, les ressources minérales du pays, et que voilà, ceci sera peut-être beaucoup plus compliqué de mettre la main dessus qu'il ne le pensait au départ, mais l'essentiel est là, c'est pas la situation des populations dans l'Est.
Merci. Maître Nene Bintou Iragi Modekereza, vous êtes présidente de la société civile du Sud Kivu, vous êtes chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Vous êtes également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Le fait que la chute d'Uvira intervienne dans un contexte d'entérinement, n'est-ce pas, de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, pourrait signifier quoi à votre avis?
Bon, c'est vraiment une grande déception au nom de la société civile, parce que nous, on a cru au départ à l'implication des États-Unis comme parrain de cet accord-là. Mais à notre grande surprise, c'est que ce n'est pas une très grande surprise parce que on avait vraiment alerté le gouvernement depuis Bounagana jusqu'à ce jour que la guerre s'est préparée. Mais souvent, nos alertes ne sont pas prises au sérieux. L'année passée, au mois de juillet, on a été à Kinshasa avec les collègues de l'Ituri et du Nord Kivu. On a même fait un point de presse pour alerter sur l'avancement de la rébellion et sur la nécessité en son temps que le gouvernement puisse opter pour le dialogue en vue d'épargner les vies humaines pour analyser les intentions des uns et des autres. Mais cela n'est pas arrivé et aujourd'hui, on cesse d'enregistrer des morts, on cesse d'enregistrer des crises humanitaires, comme on va le dire bientôt, suite à cette guerre-là. Et même le même jour que les deux présidents signaient l'accord, le 4, il y a eu d'intenses affrontements au sud Kivu sur toutes les lignes de front. Il y en a eu en Sibira, il y en a eu sur l'axe Kaziba, il y en a eu à Kamanyola, il y en a eu dans les hauts plateaux, comme toujours. Et donc, ce sont des populations, ce sont des vies humaines qui sont fauchées pour des intérêts économiques. Et donc, nous avons même pris le courage avec le doyen de la société civile Sud Kivu. Au départ, d'ailleurs, avant que le doyen ne s'implique, au mois de janvier, j'avais écrit au président Trump pour le féliciter de son élection et lui demander qu'on attendait beaucoup de lui, des États-Unis, par rapport au dénouement de la crise chez nous. Parce que nous savons que la RDC a toujours été victime de ses richesses. Donc, il y a des grandes puissances qui se battent. Les États-Unis, la Chine fait moins de bruit, mais exploite aussi les ressources, la Russie, ainsi de suite. Et qu'on pense que s'il y a quand même un plus fort qui parraine de tels accords, on pourrait quand même espérer à une paix durable. Et c'est par la suite que le gouvernement a proposé l'option de minerai. Ce qui nous a... parce que déjà au mois de février, la ville de Bukavu était tombée. Les doyens de la société civile ont amorcé, du Sud Kivu ont amorcé des réflexions profondes. On a écrit à M. Boulos au mois de mai pour déjà donner les attentes de la population par rapport à ce qu'on pourrait attendre de cet accord-là. Entre autres, on a exigé qu'il y ait plus d'inclusivité. La société civile devrait participer, le Parlement... qui représente aussi le peuple congolais.
Justement, le fait que la chute d'Uvira intervient dans ce contexte d'intérimement de l'accord de Washington, cela peut signifier quoi à votre avis, vous de la société civile?
Non, ce n'est pas la première fois. Je vous dis que l'accord ici a été intérimé seulement le 4 décembre, mais il était signé le 27 juin. Et le 27 juin, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts à Kamisimbi. Donc c'est pour autant dire que chaque fois nous avons alerté notre gouvernement sur la stratégie du Rwanda qui a toujours été celle de talk and fight. Donc autant on négocie, autant on se bat. De notre côté, on a été un peu dans la distraction, et on n'a pas renforcé les troupes, on n'a pas renforcé les institutions, ce qui fait que toutes ces faiblesses à l'interne font que les ennemis en profitent et se promènent comme si c'était vraiment dans un espace conquis.
Merci.
Et on s'étonne que chaque fois que les villes tombent sans affrontement, on Merci. Se demande est-ce que c'est conventionnel, est-ce que c'est quoi. Et donc on est vraiment dans la déception totale et on pense que donc on a fait déjà une déclaration deux jours après la signature de l'accord pour encore condamner ce qui est en train de se passer. Et nous venons encore une fois d'écrire encore au président Trump pour lui faire part de notre déception. Mais aussi nous avions écrit à notre président, le chef de l'État, parce que c'est lui le garant de la nation, c'est lui le garant de l'intégrité territoriale. Il est lui-même une institution.
Merci.
Pour demander que ce qu'on est en train de connaître, comme on va en parler dans la partie humanitaire, c'est vraiment une catastrophe. Ça fait 30 ans que les populations du nord et du sud qui vous sont en train d'expérimenter la guerre et
ces
générations qui sont vraiment contraintes à vivre dans des conditions inhumaines et vraiment condamnables.
Merci Nikes Kibebel Oka, journaliste, éditeur du journal Les Coulisses. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Peut-on dire que la chute d'Uvira enterre les accords de Washington? C'est ça la question que Christophe Châtelot s'est posée.
Oui, merci beaucoup. J'ajoute que j'ai écrit beaucoup d'ouvrages, mm-hmm. Notamment...
Les rébellions.
Les rébellions, mm-hmm. RDC, balkanisation de la RDC, mythe et réalité, mm-hmm. Et puis sur le terrorisme. Mm-hmm. Et l'accord n'est pas un marché des dupes. Si nous appelons ça marché des dupes, c'est-à-dire nous prenons tous ceux qui ont négocié et signé comme aussi des dupes. L'accord n'est pas un marché des dupes. Cet accord est signé après celui ou après l'échec de Luanda du 14 décembre 2024 qui a entraîné la chute de Goma et de Bukavu. C'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste du Rwanda de ne pas signer des accords. Et s'il a signé, c'était sous pression américaine. Donc ce n'est pas un échec parce qu'un accord ou les accords sont faits pour être violés s'il n'y a pas de pression et respectés. Donc ce n'est pas un échec.
Et donc ce que vous attendez des Trump, c'est d'exercer des pressions à l'endroit du Rwanda.
Ça fait 30 ans que le Rwanda de Kagame jouit du privilège de l'impunité. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que ce pouvoir du Front Patriotique Rwandais a été installé par les Anglo-Saxons et notamment par les Américains. Donc il faut une pression pour quelqu'un qui n'a jamais reçu des menaces, qui n'a jamais reçu des reproches. Et c'est une première. Donc il faut effectivement une pression que je peux appeler un accompagnement pour la réussite de l'accord.
Alors, après l'occupation d'Ouvira après la rébellion, quelles deviennent les négociations de Doha? Est-ce que les rebelles ne vont-ils pas en profiter pour faire monter les enchères?
D'abord, il faut décrire le paysage de la RDC. Qui vient piller en RDC ou bien qui vient exploiter les ressources en RDC? Nous avons dénoncé à un certain moment ce que nous avons appelé l'hypocrisie de l'Union européenne. Par exemple, et nous avons démontré qu'il était anormal que l'Union européenne finance l'armée rwandaise pour la guerre contre Al-Suna au Mozambique. Qu'il était anormal que la France, à travers l'Union européenne, finance l'armée ougandaise, la brigade de montagne, contre les ADF. Ce qu'ils ne font pas pour la RDC. Et lorsque nous regardons le marché de la RDC, c'est un marché où pratiquement tous les prédateurs s'y retrouvent. Et donc, si on veut réussir, il faut demander aux prédateurs d'arrêter. Or, les prédateurs qui soutiennent ceux qui pillent ne sont pas prêts à arrêter. Donc, pour revenir à votre question, l'accord de Doha, comme l'accord de Washington, n'est pas ou ne sont pas des échecs. Pourquoi? Si nous prenons l'accord de Doha, nous prenons seulement un point. Et ce point, avant de l'aborder, nous nous posons la question. Pourquoi le Rwanda nous fait la guerre? Parce que ça fait 30 ans et ça fait 5 rébellions. L'AFDL, le RCD, le CNDP, le M23-1 et le M23-2. Ça fait 5 rébellions. Quels sont les objectifs que le Rwanda poursuit plutôt? Ça, si on répond à cette question, nous disons qu'ils ont échoué. Le Rwanda a échoué. Lorsqu'on prend le deuxième aspect, si vous autorisez, lorsqu'on dit, par exemple, l'insertion au cas par cas, et suivant la législation congolaise, vous pensez que quelqu'un qui a participé à 5 rébellions pourrait, si nous sommes sérieux, être réinséré dans les FRDC, dans les forces de défense et de sécurité?
Justement, est-ce qu'ils ne vont pas se sentir, n'est-ce pas, confortés par ce qui se passe à Ouvira et donc en profiter pour faire monter des enchères?
Mais c'est ça tout le problème. Parce que lorsque nous lisons à tête reposée, froidement, nous nous rendons compte que, au fait, cet accord de Doha ne profite pas au M23. Sauf si le M23 tient à occuper pour l'éternité cette partie qu'il gère actuellement. Mais s'il faut reconfigurer, revenir à la RDC comme État souverain avec l'intégrité du territoire, cet accord ne profite pas au M23.
Voilà, on va y revenir. Chères auditrices, chers auditeurs, l'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. C'est dimanche 14 décembre 2025, c'est la date anniversaire de Fally Ipupa, cet auteur, compositeur, danseur et chanteur congolais. À cette occasion, nous allons écouter l'une de ses compositions intitulée « Attente », contenue dans son premier album « Droit chemin », et on revient juste après.
Attente. Oh, tozela. Bon, ton dimite ko zela. Mais tu côté les mawapi. Santa la fée, maman bota Joseli ma boîte.
Paza wapi, wapi bango. Baye balo baka ke boli mweza la kate. Bono ye kweli na lelo e zanini. Nakuta nino mote manange. Mon major vane. Yasa mimi kobi Marasola Nana yuma Mbafa mi babula Kanga na zala sango Yoga mchile bapla ya zinangai Kumya boli mwezi Tinga tinasuki Ya moto Ya moto Ezo langi sangai Nazola na mango Kutena nyoso amena boli
tena nyoso mena bolingo na nate makwata. Mala sola, nana yuma, mbapa mi babula kanga na zala sango. Yo pertive papla ya binanga yi, pongia bolingo di pina utina. Bolingo e pesinga trua yebele. Bolingo e pesinga trua yebele.
Ami Gontieni Tabwanda, Benga General Grada Kumba, Eju Lubaki, Mwabe Masamba, Papa Jerry Makitakana, Evala Kasongo Mayele Dina Cheche.
Oh, my God.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. C'était le mercredi 10 décembre dernier. Nous avons également analysé l'actualité relative à la chute de la ville d'Uvira au sud Kivu aux mains de l'ASC 1-23. Participe à cette émission Nikez Kibelbel-Oka. Il est journaliste et il est éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Maître Nene Bintou Iragi Mudekereza, président de la société civile du Sud Kivu, et le chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame avaient entériné jeudi le 4 décembre à Washington l'accord de paix conclu entre les deux pays le 27 juin dernier sous médiation américaine. Félix Tshisekedi s'était engagé solennellement à mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui en découlent. Le chef de l'État congolais a exprimé l'espoir que, avec le même sérieux, le Rwanda respectera pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris à Washington. Il a rappelé que sa main reste étendue pour notamment une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés. Nikez Kibelbel, au cas où vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cet accord en posant la question de savoir si cet accord est un échec pour Kigali et les M23, on vous écoute.
Oui, merci, merci Guy Maté. Échec juste après la prise de d'Uvira. Le ministère des Affaires étrangères du Rwanda, dans son communiqué, a demandé une réévaluation de l'accord. Cela signifie effectivement que le Rwanda a signé...
Réévaluation de l'accord de Washington.
De Washington. Que le Rwanda a signé malgré lui, qu'il a signé sous la pression et qu'il n'avait pas envie de signer. L'échec, je le dis pourquoi, parce que aussi, lorsque nous voyons d'abord l'accord de Doha, on peut tout dire. Lorsqu'on demande... Quel est le problème? La RDC est un pays agressé. Or, que ce soit dans l'accord de Doha, que ce soit dans celui de Washington, ou même dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 février, il est dit clairement qu'il faut respecter la souveraineté de la RDC. Et que le Rwanda doit cesser tout soutien au M23. C'est dit clairement. Et donc, lorsqu'on applique cela, quels que soient les avantages, c'est un grand échec pour le M23 et pour le Rwanda. Parce que la question... Elle revient. Pourquoi ça fait 30 ans et 5 rébellions, pourquoi on prend les armes contre la République démocratique du Congo? Pourquoi on agresse? Lorsqu'on répondra à cette question, on pourra voir si réellement ils ont réussi ou pas. Parce que à chaque rébellion, il y a cette sorte de mixage, de brassage, et après 4-5 ans, une autre rébellion revient, cela signifie que les objectifs n'ont jamais été atteints. Et dans mon livre sur Balkans de la RDC, mythes et réalités, je donne ce qu'eux, ils ont appelé les doléances légitimes, que Corneille Nangaa a traduit aujourd'hui par la République fédérale du Congo. C'est-à-dire laisser une partie, donner une partie de la République démocratique du Congo au M23, qu'il les gère pendant 5 ans renouvelables une fois, et tester le fédéralisme. Donc si l'accord, si les accords, parce que l'accord de Washington est pratiquement est englobant, si ces accords sont respectés et que la souveraineté de la RDC est respectée, l'intangibilité des territoires, donc toutes les rébellions avec tous les morts, avec toutes les destructions méchantes des vies et des biens, avec tous les stress, cela signifie qu'on a tué pour rien. Et les Congolais doivent arrêter l'auto-victimisation, doivent arrêter l'auto-flagellation. On a signé un accord pour ramener la paix, quelles que soient les conditions. Parce que, En 1945, les États-Unis ont signé un accord avec l'Arabie Saoudite sur la durée, pétrole contre la paix. Les États-Unis ont signé avec l'Égypte pour que l'Égypte n'attaque pas Israël. Et les plans Marshall, tout ça, ce sont des accords. Et il faut dire que celui qui donne, qui met son argent, a des, comment dirais-je, des intérêts qu'il peut récupérer. Mais pour la République démocratique du Congo, le premier plus grand intérêt, c'est l'intégrité du territoire tel que nous l'avait légué le père de l'indépendance.
Voilà. Est-ce que dès lors qu'on n'a pas encore vu les retombées de cet accord sur le terrain, peut-on déjà se permettre de dire qu'il y a une des parties qui est perdante?
Mais l'accord a été signé, ça ne fait même pas une semaine. Donc, nous mettons cela dans les douleurs de...
Ça fait une semaine.
Bon, ça fait une semaine aujourd'hui.
Oui.
Dans les douleurs d'accouchement. C'est-à-dire qu'il faut des pressions, il faut accompagner cet accord. Et ne peut accompagner l'accord que celui qui a installé le pouvoir à Kigali, c'est-à-dire les États-Unis. Parce que les autres pays n'ont pas été... Regardez l'Union africaine. Lorsque le 14 décembre 2024, le président Kagame a refusé de signer en Angola, est-ce qu'il y a eu des sanctions au niveau de l'Union africaine? Non. On va chez les plus forts, en espérant que le plus fort aura un peu de bonne volonté. Et comme les États n'ont que des intérêts, on ne tient pas beaucoup plus de sa bonne foi, nous ne sommes pas l'Église, on lui dit, nous vous proposons des minéraux, on peut tout dire. La RDC a quelque chose à offrir au monde. Et c'est ce qu'on essaie de faire pour que la paix revienne.
Merci. Maître Nene Bintou Iragi Mudekereza, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de cet accord qui a été conclu le 4 décembre dernier à Washington entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la paix dans la région, dans ces contextes surtout des crises dans la ville d'Uvira?
Oui, je l'avais déjà dit, l'accord a été violé le même jour qu'il a été signé, donc à partir du 27. Si vous comptez les nombres d'attaques jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la prise de la ville d'Uvira en ce qui concerne le site Kivu, ce qui se passe dans la province voisine du nord Kivu, les affrontements Masisi ou Walikale. Donc on se pose la question sur l'importance, parce que nous continuons à croire au retour de la paix chez nous, mais on ne peut pas parler dans le contexte actuel de la réussite de l'accord, d'autant plus qu'aujourd'hui, au site Kivu par exemple, les M23 occupent déjà 6 territoires sur les 8, donc je dirais même presque, je pense qu'il y a une partie de Shabunda qui est occupée, une partie de Mwenga, donc ils sont presque partout, au nord qui vous séparait, donc ce sont les populations qui sont en train de subir, et on ne peut pas le dire à cette population qui souffre que l'accord est un succès. Donc si ça sera un succès, c'est peut-être que ça sera à long terme, parce que nous avons dit que la guerre économique, on en veut à nos minéraux. Et mais nous avons toujours dit qu'on ne peut pas continuer à tuer les gens à cause des minéraux. On a même demandé à la note qu'on a écrite avec le doyen à M. Boulos pour dire les États-Unis, après les deux guerres mondiales, l'Europe était complètement détruite. Ils ont fait le plan Marshall. Le plan Marshall a reconstruit l'Europe. Et que nous avons besoin du plan Marshall. Donc il ne suffit pas de seulement construire des accords économiques sans qu'on puisse reconstruire notre pays. J'étais choqué, moi, ce jour-là, quand j'ai appris que le président Trump a dit que tout le monde sera gagnant, tout le monde va avoir de l'argent, ainsi de suite. Oui, bien sûr, c'est ça l'objectif de l'accord de s'accaparer des minéraux de la RDC. Mais nous voulons que les affaires économiques marchent dans un contexte pacifié, dans un Congo unifié, pour que nous puissions continuer à jouir de la paix. Le prédécesseur a dit qu'il y a les Rwandais et perdants, mais je vous informe que l'Assemblée nationale du Rwanda avait ratifié cet accord avant l'annonce. Donc si le Rwanda avait su que cet accord-là ne lui serait pas bénéfique, il n'allait pas accepter à ce que son Assemblée nationale puisse le ratifier. Donc c'est ce qui n'est pas d'abord le cas pour notre pays. Donc moi je pense qu'il y a des dispositions, il n'y a pas d'accord parfait, mais il y a des dispositions telles que la souveraineté nationale. Il y a la disposition comme l'intégration conditionnelle, parce que nous, la société civile, nous en avons marre des guerres à répétition. Nous en avons marre des garanties de non-répétition qui ne sont pas conclues dans les accords.
Merci.
Nous sommes fatigués de la guerre et à un moment donné, on doit stopper de donner des primes à ceux qui tuent pour avoir le pouvoir. Nous avons voté la constitution de 2006 pour dire que le seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est les élections. Et donc, s'il y a toujours des gens qui reviendront ou pour avoir pris les armes, ça va créer un cycle. Aujourd'hui, ça va être le M23, demain, peut-être, ça sera M24 ou un autre mouvement qui va remettre au centre, à l'ouest, ainsi de suite. Donc, et la question des victimes, pour nous, c'est une question très, très préoccupante.
Merci.
La question de la justice, la question humanitaire, et c'est des choses qui ont manqué dans cet accord-là, et c'est pourquoi nous, la société civile, nous exigeons que l'accord soit appliqué dans son intégralité. Et j'ai commencé à le lire, je ne sais pas si j'ai fini, mais je semble n'avoir pas vu la clause de révision comme les autres demandent déjà la clause de révision. Il faudrait que, de notre côté, notre assemblée aussi s'y penche et qu'on puisse voir avec la société civile qu'est-ce qui ne va pas marcher, parce qu'il s'agit d'abord des intérêts de la RDC.
Merci.
On vous dit qu'il n'y a pas d'intérêt entre États, mais on doit d'abord regarder qu'est-ce qui arrange les Congolais qui sont propriétaires de ces richesses-là et qui doivent en jouir sans exposer, sans perdre leur vie.
Merci Christophe Châtelot. À votre avis, cette crise connaîtra-t-elle un jour une issue pacifique?
On ne peut évidemment que l'espérer, mais encore une fois, quand on regarde ces accords qui prévoient bien évidemment des mobilisations, des armements, casernements de tous les groupes armés, question qui est en suspens, qui est irrésolue depuis 30 ans. Je pense qu'il y a des déclarations de bonnes intentions, il y a un cadre général qui est posé, et des choses trappes et des pièges qui sont présents quasiment à toutes les lignes. Or, on évolue en ce moment dans un cadre de défiance réciproque absolue, où nos discours quand même à Kinshasa, on a l'impression, repose sur la conviction qu'une solution militaire est encore possible et qu'il est possible de gagner cette guerre. Le Rwanda, on a du mal à voir quels sont ses objectifs réels depuis un jeu de poker caché depuis 30 ans. Il ne s'agit pas uniquement à mon avis, de prédation minière. Il y a évidemment aussi la question des terres, mais il y a une question imaginaire, identitaire, qui est aussi plus grande que ça. Et il y a évidemment le souvenir du génocide qui rend ce problème particulièrement complexe. Les FDLR, je pense en effet, ne sont pas une mesure, c'est une menace sécuritaire en tant que telle. Ils ne vont pas prendre Kigali, mais si on parle du rapport intercommunautaire, puisque c'est ça qui est derrière les FDLR, la question se pose à l'intérieur même du Rwanda. Donc quand Kagame parle des FDLR, j'imagine qu'il parle aussi de la grande majorité Hutu qu'il y a chez lui. Sans pouvoir le dire, puisqu'il n'y a plus de distinction, une chose qu'il a décrétée, mais dans les esprits, dans les têtes, dans les cœurs, c'est pas la même chose. Donc comment arriver à résoudre toutes ces questions, on ne peut en effet que le souhaiter, mais quelle complexité. Et on a vu que l'expérience avec Donald Trump, la complexité et la patience n'étaient pas son fort. Le département d'État a été dépourvu d'un certain nombre de ses pouvoirs au profit d'une équipe resserrée à la Maison-Blanche. Tout l'appareil diplomatique américain finalement est relativement affaibli. On ne parlera même pas de Messaïdi qui a été supprimé. Si on parle de coopération entre les États-Unis et le Congo, force est de constater que le premier récipiendaire d'aide américaine ne l'est plus.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Célija. Célija, cette chanson de Josky Kambokuta dans l'orchestre Ok Jazz. Et on se retrouve juste après.
Oh, Zambe, salisanga na pika, ne tumbu hoyo.
C'était Selija, Selija, cette composition de Joski Kamokuta dans l'orchestre Ok Jazz. Et je rappelle que nous avons dans cette émission Nikeski Belbel Oka, journaliste et éditeur du journal Les Coulisses. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les rébellions rwandaises au Kivu de 1996 à 2024. Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, président de la société civile du Sud Kivu, elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique Élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo et en ligne depuis Paris, capitale de la France. Christophe Châtelot, il est journaliste reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Plusieurs personnes ont été tuées, de nombreux blessés dans les affrontements opposant les FRDC et les M23 depuis le 2 décembre 2025 au sud Kivu. Les combats ont provoqué une dégradation rapide de la situation humanitaire et sécuritaire dans la région. Dans un communiqué consulté ce mercredi 10 décembre par Radio Kapi, les coordonnateurs des opérations humanitaires en RDC et chef de la MONUSCO par intérim, Bruno Lemarquis, s'est dit préoccupé par l'escalade des violences qui entravent notamment les évacuations médicales et affecte les écoles ainsi que d'autres infrastructures civiles. Selon lui, les conditions de vie des déplacés sont critiques, avec des abris surpeuplés, une exposition accrue aux risques sanitaires et aux violences basées sur le genre. Dans son communiqué, il rappelle que les civils et les infrastructures civiles ne doivent pas être pris pour cible et appelle à l'arrêt immédiat de l'usage d'armes explosives dans les zones habitées. Il rappelle également que l'accord de paix signé le 4 décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda constituent une lueur d'espoir, mais que sa concrétisation dépend de la cessation rapide des violences, affirmant que les acteurs humanitaires sont prêts à intervenir dès que les conditions de sécurité les permettront, rappelant qu'entre janvier et septembre 2025, plus d'un million 500 000 personnes au sud Kivu ont déjà reçu une aide vitale, incluant nourriture et soins de santé. Maître Néné Bintou Iragi Mudekereza, vous avez souhaité nous parler de la situation humanitaire au sud du Kivu causée par les affrontements entre les FRDC et les M23. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup, Guy Mathis. chaque fois qu'il y a des affrontements, il y a toujours une conséquence sur le secteur humanitaire. Déjà l'année antérieure, en 2023, parce que les attaques du M23 ont commencé depuis novembre 2021, déjà en 2023, on a dénombré 7 millions de déplacés. Et il y a les statistiques générales des décès ou des gens tués depuis que ces guerres ont commencé. On est au-delà de 10 millions de morts. Et donc, la RDC a déjà enregistré le score macabre le plus important, plus que les deux guerres mondiales. Et donc, c'est vraiment une grande catastrophe. Et c'est pour cela que si on continue à écrire, on continue à faire les plaidoyers, c'est pour que le retour de la paix soit effectif. Et ce qui est marrant, c'est que souvent dans les discussions, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, on ne tient pas compte de cet aspect humanitaire, d'autant plus que c'est la conséquence de la guerre et c'est cet aspect humanitaire qui touche directement les communautés. Donc il y a moins d'assistance parce que au même moment, les États-Unis veulent nous apporter la paix, c'est que nous ne refusons pas, nous ne décourageons pas. Mais au même moment aussi, les États-Unis ont réduit très sensiblement l'aide américaine à travers l'USAID. Et cela affecte beaucoup d'ONG locales, beaucoup d'ONG nationales, et beaucoup plus même beaucoup d'ONG internationales. Et il y a par exemple les HCR qui avaient fermé ses portes dans le territoire de Fizi et qui s'occupaient des camps de réfugiés de Burundi qui sont là-bas. Et donc la situation est vraiment, vraiment alarmante avec les affrontements récents. Dans la plaine de la Rusizi, on a dénombré des morts à Sangue, on a parlé de plus de 36, on a dénombré des morts à Luvungi, il y a eu des morts aussi vers Kiliba et vers Kasenga là-bas dans la ville de Vira, des personnes tuées par des balles, les obus sont tombés sur des écoles, parce que ce qu'on déplore, c'est que même là où les affrontements se sont passés, ils se sont déroulés à côté des écoles. Il y a l'antenne de Vodacom qui a été détruite par des obus. Et donc, ça fait que la situation est très, très difficile. Et les humanitaires n'ont pas du tout accès à pourvoir l'aide humanitaire dans ces cas-là. Les sources médicales nous renseignent qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des fausses couches à cause des retentissements des bombes. Parce que, comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, avait déjà prédit, je crois, deux ans ou trois ans de cela, que les M23, appuyés par le Rwanda, utilisaient une artillerie lourde. Donc des armes très sophistiquées, des drones kamikazes, des je ne sais pas quoi. Je ne suis pas expert militaire, mais comme lui-même l'avait décrit, c'est ce qu'on est en train de vivre sur terrain. Et donc ça fait que des dégâts sont très, très, très importants. Les sources, il y a ces racines qui a eu plus de 200 000 personnes qui se sont déplacées dans la plaine. Les uns ont fui vers le Rwanda à travers Bugarama, les autres vers le Burundi. On parle de plus de 20 000 dans les deux jours qui sont passés. Et même là au Burundi, les réfugiés congolais ne sont pas encore effectivement pris en charge parce qu'on a vu les images des femmes par terre, des enfants avec des bébés, avec... Donc c'est vraiment inimaginable de voir que les pays comme le Burundi, qui n'a pas tellement de ressources, reçoivent autant de réfugiés et qu'il n'y ait pas beaucoup d'appui pour que ces réfugiés-là puissent que bénéficier de l'assistance digne sur le plan humanitaire. Il y a d'autres qui étaient partis depuis avant en Ouganda, il y a d'autres qui sont au Rwanda, comme je l'avais déjà dit. Et donc, les gens sont en train d'errer par-ci, par-là.
Merci.
Enfin, j'allais finir par la question médicale, parce que les hôpitaux aussi se plaignent du manque de médicaments. Il y a vraiment pénurie de médicaments essentiels dans plusieurs hôpitaux. Les couloirs humanitaires n'étant pas vraiment effectifs. On en a parlé avec le CONAFOD à la conférence de Paris, le 30 octobre. Il y a eu des États qui se sont engagés à accroître l'aide humanitaire dans la région des Grands Lacs, et je crois plus de 70% des ressources devraient être acheminées en République démocratique du Congo. Ben jusque là, on sent que ça n'avance pas, et vraiment il y a urgence à ce que les déplacés soient vraiment assistés. et que la communauté internationale aussi, en ce qui concerne la question des réfugiés, puisse voir comment contribuer à mobiliser pour que les États qui ont accueilli les réfugiés aussi puissent avoir des moyens de les prendre en charge.
Merci.
Et de tout ce dont nous avons besoin, c'est le retour de la paix.
Voilà.
Donc, voilà, si la paix est là, tout le monde va rentrer, tout le monde va cultiver ce champ. Tout le monde va étudier et ça va être une très bonne chose pour toute la communauté.
Merci Christophe Châtelot. Justement, l'idéal serait que la paix puisse revenir, que la guerre se termine afin qu'on soit en mesure, n'est-ce pas, d'assister ces populations en détresse. Mais c'est fait que cette guerre-là ne se termine toujours pas. Les conflits s'enlisent. Qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat pour sauver toutes ces personnes qui sont en train d'errer ça et là pour chercher où s'abriter?
Je suis, comme toi, je suis assez pessimiste. Les mois passés, la situation qu'il y a eu à Goma, avant que Goma ne tombe, il y avait déjà plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées là depuis des mois autour de Goma, qui était une zone à ce moment-là accessible par avion. L'aéroport était encore ouvert. Comment dire, c'est assez désespérant d'abord de voir, je suis désolé de le dire, mais de voir la passivité du gouvernement central vis-à-vis de ces déplacés, l'assistance reposée totalement, intégralement, quasiment sur les agences de l'ONU, ce qui n'empêchait pas de critiquer la MONUSCO et de demander son départ, maintenant on en entend moins parler. Des déplacés suis désarmé, on voit bien qu'il y a à nouveau des dizaines de milliers de personnes qui maintenant ont franchi la frontière pour aller au Burundi. On sait dans quel état, mauvais état économique se trouve le Burundi actuellement, au-delà d'autres considérations politiques dans lesquelles je veux entrer, il y a une énorme crise, ils ne pourront pas prendre en charge tous ces déplacés. Ceux qui sont éparpillés, qui prennent la direction du sud, de Kalenié, de Fisbaraka, sont laissés à eux-mêmes. Malheureusement, évidemment, je n'ai aucune solution. Ce que je vois aussi, c'est que le mal se propage, pas seulement les maladies. Je regardais la désinformation sur les tensions qu'il y a. Il y a Baraka, il y a Kalenié entre FRDC et Ouazalendo, même situation qui se reproduit après Uvira, où on a connu la même chose, Goma, où on avait connu la même chose, Bukavu, où on avait connu la même chose. Les populations sont les sacrifiées de toute cette histoire, sacrifiées par toutes les parties. C'est responsable, j'entends, je ne mets pas en cause l'action de la société civile des sociétés civiles qui font ce qu'elles peuvent. Malheureusement, l'abandon, on ne peut pas dire autre chose, des principales autorités concernées, qu'elles soient locales ou internationales, et juste décourageant, désespérant. Voilà.
Merci Nicolas Kibelbel, on va finir cette émission avec vous. Qu'est faut-il faire immédiatement pour sauver toutes ces personnes en détresse?
Guy, je rappelle que le président Macron avait demandé la rouverture de l'aéroport de Goma. Kigali a refusé. Donc vous comprenez la complexité et vous comprenez pourquoi nous disons que ces accords ne profitent pas au Rwanda. Et il faut un accompagnement. Cet accompagnement ne peut se réaliser que par la pression de la communauté internationale, en commençant par les États-Unis. Donc si toutes les grandes puissances, si tous ceux qui avaient soutenu le Rwanda depuis 30 ans se désistaient pour dire le peuple congolais mérite mieux, je pense qu'on peut arriver à la solution. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda brandit les génocides avec les FDLR. Mais nous brandissons les génocostes. Plus de 10 millions de morts. Donc il faut une pression pour que les protagonistes autour du président Trump puisse faire que cet accord signé à Washington soit, même si ce n'est pas une panacée, mais soit quand même mis sur table et soit appliqué pour que la paix revienne petit à petit. La paix, c'est un processus. Et on doit les construire petit à petit. Voilà. Ce qui est plus important, c'est l'application de cet accord.
Merci, c'est par là que nous finissons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Maître Néné Bintou Iragimou de Kereza, Christophe Châtelot et Nikes Kibelbel Oka. Merci aussi à Billy Landry Betou qui était à la technique, à la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Amani, cette chanson du reggaeman congolais Mike El Sambo. Amani qui signifie la paix, une façon pour nous de dire à nos compatriotes dans la partie est du pays que nous sommes de cœur avec eux et qu'avec l'aide de Dieu, la paix reviendra et de manière durable dans cette partie du pays. On écoute donc Amani avec Mike El Sambo et on se retrouve le samedi prochain.
Tamani, wa Congo mani, tu le kulaka deni anani. Hatuwezi fika mashambani, maisha yetu yamekuwa tabani. Tunauawa, tunachinjwa, tunabakwa. Dunia nzima ya nyamaza, hawasemi kitu. Mambo haya yaishe, amani ya kudumu ikae. Amuru usalama, senyamaze silaha, maisha tupate raha. Viongozi wa inchi, mumalize hizi mavita. Mkongo mani nae, aishi katika amani. Mkongo mani nae, afaidike na mali ya inchi yake. Les armes, face aux crimes commis au Congo, le monde entier doit se lever. Passer par les voies légales pour accéder aux richesses congolaises. Au lieu de créer des groupes armés pour tuer les Congolais, au lieu de tuer le peuple congolais, peuple pacifique et hospitalier. Tunasema amani ya kweli ikae ndani ya Kongo. Tunasema amani ya kweli ikae dale kalaka. Tunasema amani ya kweli ikae ndani ya Afrika. Tunasema amani ikae fasi yote.
Peace and love Africa. Y'a pas de communauté des anges, ni de communauté des démons. Dans chaque communauté, il y a des anges et des démons. Arrêtons la diabolisation.